s'interrogera sur la capacité du design à être un levier pour le marché de la silver economy. Alors, comme d'habitude, on va passer en revue un baromètre que Frédéric Serrière a fait sur les attentes des 55+, cette fois-ci, c'est le segment 55+, en matière de design. Et ensuite, on vous proposera une table ronde avec l'ensemble de nos intervenants. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc, il y a Monsieur Chevalier de la société Technosens, Madame Isabelle Verillac, qui dirige la Cité du Design de Saint-Étienne, Monsieur Lenfant, qui est designer chez GE Healthcare, Mathieu Robert, qui est designer, et Patricia Bastard, qui est également designer de l'agence Yellow Mello.
Yellow Window. Qui est responsable.
Pardon. Je vais tout de suite laisser la parole à Frédéric. Donc, nous avons normalement la visite de Madame Delaunay dans quelques minutes. Donc, nous nous interromperons si elle souhaite, et je crois qu'elle souhaite nous parler. Donc, voilà, on sera agile dans la gestion de cette matinée.
Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque matinale, on fait un baromètre, une étude, pour un petit peu introduire le débat. Donc là, c'était sur le design. Donc on a fait en deux phases. On a interrogé 1500 personnes, donc ce mois-ci. Et après, on a refait un focus group avec des seniors pour pouvoir mieux comprendre les réponses qu'ils avaient données dans le camp type, s'il y avait des réponses qu'on ne comprenait pas forcément parfaitement. Alors, on a interviewé les 55-75 ans. Donc, juste, bon, c'est deux groupes de seniors, baby boomers, jeunes seniors et seniors. En dessous, ceux qui nous suivent, vous avez les générations des seniors qui sont assez différents. Les baby boomers, c'est hédonisme, liberté, par exemple, et les seniors plus âgés, c'est respect d'autorité ou histoire. Donc, juste pour vous montrer qu'il y a deux générations ou trois générations différentes. Alors, la question, c'est, on leur a posé la question, pour vous, qu'apporte le design? Donc, dans le Conti, ils ne savaient pas forcément ce qu'était le design, donc il a fallu leur expliquer au téléphone ce qu'on entendait par design, sinon ils n'allaient pas répondre correctement aux questions. Donc, le design, pour les baby-boomers, en fait, c'est plutôt l'esthétisme, ils voient ça plus par l'esthétisme, et pour les seniors les plus âgés, ils voient ça comme facilité d'utilisation. Ensuite, donc, il y a un facteur générationnel qui est fort, hein, le baby boomer est plus dans le design. Et on remarque que les 33% n'ont pas d'avis, c'est ceux justement qui ne savaient pas répondre à la question ce que c'était vraiment le design, il a fallu leur expliquer pour la suite du questionnaire. Ensuite, avez-vous acheté dans les 6 derniers mois un produit parce que le design vous plaisait? Donc la réponse est évidemment oui, ils ont tous acheté un produit. Donc là on a fait deux tranches d'âge, vous avez les 55-68 ans, les baby boomers, et les 69-75 ans qui sont les seniors. Et ensuite on va poser la question, est-ce que c'était important pour vous? Donc là on voit également, est-ce que le design est pour vous très important, important, peu important, pas être important? Là également il y a un phénomène générationnel, baby boomers disent que le design c'est important, mais ils le jugent par l'esthétisme plutôt, et par le look. Et les seniors le jugent moins important dans le sens qu'ils l'ont interprété. On verra après dans les focus group qu'est-ce qu'ils disent. Alors, dans les focus group, ils disent que les produits qui sont visibles, c'est en fait où on peut être vu avec un produit senior, là ils disent que le design est bien sûr hyper important. Ils font les différences. Je prends par exemple des seniors qui vont lire Notre Temps, par exemple. Certains vont le cacher, par exemple, quand les petits-fils vont venir, parce qu'ils vont juger que c'est un magazine pour les seniors, mais ils vont quand même le lire quand ils sont seuls. Donc, lorsque c'est un usage visuel, ils disent que le design est très important pour ne pas être ghettoisé dans la catégorie senior. L'aménagement intérieur, la notion de beau et le design light jugé comme important parce qu'ils passent de plus en plus de temps à domicile. On verra après, on a classé aussi les besoins des seniors, donc les besoins forts, un besoin fort égale un design comme jugé comme important, et un besoin moins important égale un design jugé moins important. Et les plus âgés sont les moins habitués à la notion de design, c'est plus la facilité d'utilisation. Quand on leur dit facilité, elles disent ah oui, donc c'est la facilité qui est plus importante pour eux. En général, alors après on a voulu classer le design par rapport aux autres facteurs, le prix, l'utilisation. Donc, en général, qu'est-ce qui est important? On leur avait d'abord expliqué ce que c'était le design au téléphone, et après, on leur repose la question, bien sûr. Qu'est-ce qui est important pour vous, le plus important dans l'achat d'un produit? Ils disent les fonctionnalités, donc à quoi sert le produit, bien sûr. Après, le prix, la marque pour les plus âgés, vous voyez, ça c'est un phénomène aussi générationnel. Et ensuite, le design vient en quatrième position. Donc, c'est fonctionnalité, le prix, la marque et le design. Et dans le focus, on le voit très bien, c'est que le design, oui, mais pas n'importe quel prix. Alors après, on leur pose la question pour faire un parallèle. Connaissez-vous des produits conçus pour les seniors? Donc, ils répondent tout de suite. Les baby-boomers vont répondre oui, parce qu'ils ont peut-être consommé par rapport à leurs parents, ou ils ont été en publicité. Et ensuite, donc, ils répondent bien sûr oui. Est-ce qu'ils sont, par rapport à ces produits-là, dit pour les seniors, êtes-vous en accord avec cette affirmation? Alors, ils jugent que ces produits ont un look trop âgé. Vous voyez, donc là, il y a un phénomène également baby-boomer, à 58% pratiquement, qui jugent que le produit qu'ils ont connu comme senior est un produit qui a un look trop âgé. Il y a quand même 42% à peu près des seniors qui pensent que ce même produit a un look trop âgé. Après, ils pensent que c'est un produit pour tous les âges. Donc là, on voit quand même que produit senior dans leur tête, qu'ils ont imaginé comme senior, égale quand même un produit qui est jugé âgé. Et il y a une forte notion de CSP. Les CSP+, en règle générale, refusent plus le vieillissement que les CSP-. Et vous voyez, en fait, 79% des baby-boomers, donc la jeune génération CSP+, pensent que les produits seniors ont un look trop âgé dans leur imaginaire. Ensuite, durant les 12 derniers mois, avez-vous refusé d'acheter un produit parce qu'il faisait vieux? Donc là aussi, le focus group explique la réponse. 34% des baby-boomers CSP+ ont refusé. Les baby-boomers répondent non parce qu'en fait, certains ont acheté un produit jugé pour seniors, mais pour leurs parents. Dans ce cas-là, il n'y a pas de différence. Ensuite, les plus âgés n'ont pas refusé d'acheter un produit parce qu'en fait c'était pour un usage important pour eux, voire de la nécessité. Donc c'est pour ça qu'ils répondent non à ces questions-là. Alors le focus group dit que les baby boomers ont moins besoin de la nécessité d'acheter un produit pour les seniors, donc ça explique leur réponse qu'ils disent non. Les plus âgés se posent moins la question parce que c'est plus des achats de nécessité dans ces gammes de produits. Donc le design, ils disent, bon, le design tant pis, ça serait mieux, mais j'achète parce que c'est important pour moi. Par exemple, 80% de ceux qui devraient être équipés d'aide auditive ne le sont pas en raison soit du prix, soit du design qui fait un peu trop vieux à leur goût. Sandrine, tu me coupes quand je veux, hein, voilà. Ensuite...
Je te coupe tout de suite. D'accord. Alors. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Michèle Delaunay. Merci Madame d'être venue. Effectivement, c'est notre dernière matinale de l'année. Nous en avons fait 6 et nous avons accueilli dans ces matinales entre 300 et 400 personnes à chaque fois sur des thématiques différentes, des personnes assidues et je pense qui ont envie que ça continue, Frédéric, hein, si on peut le faire. Et à chaque fois, des débats intéressants, des choses qui se créent entre les personnes. Donc une mayonnaise qui prend, je ne sais pas ce que tu veux dire.
Oui, je pense que ça prend. La filière fédère beaucoup d'acteurs en fait, qui sont intéressés par le sujet, comme vous savez. Donc je pense que là, c'est la bonne foi en France. Ouais.
On espère. Voilà. Si vous voulez nous dire quelques mots, ça nous ferait très plaisir. Non, mais écoutez, je sais que vous avez un emploi du temps très chargé, donc je vous laisse la priorité avec plaisir, et je pense que tout le monde sera content de vous écouter.
J'entendais, bonjour à tous tout d'abord, j'entendais qu'on parlait en mon nom, c'est-à-dire au nom des baby-boomers. Et j'ai cet honneur et cette chance de faire partie des baby-boomers précoces. Et je confirme tout ça, c'est-à-dire que le baby-boomer... à la fois veut anticiper son vieillissement parce qu'il accompagne massivement, ou il a accompagné massivement ses parents dans le grand âge, et comme on se croit tous beaucoup plus forts, on se dit, moi je veux pas que ce soit pareil pour moi. Et donc il y avait une vraie volonté, je la vis sur le terrain, je la perçois, due à l'inquiétude bien sûr, mais... d'anticiper, de prendre à bras le corps ce sujet. mais avec des exigences. Nous, en particulier les femmes, nous avons été de cette génération élevée dans une culture d'autonomie, d'émancipation et de réalisation. Et donc nous voulons adapter, anticiper, mais que tout ça soit à la fois utile, pratique, essentiel, mais beau. Et ne stigmatise pas et ne nous fasse pas obligatoirement prendre pour des vieux. Et c'est tout ça que vous êtes en train de faire. Et aujourd'hui, de focaliser sur le point du design, qui est à la fois la qualité d'usage et la qualité esthétique, me paraît extrêmement important. C'est aujourd'hui une exigence. Et une exigence est un atout pour l'économie de ce fait. Donc je veux premièrement vous féliciter, vous m'avez dit 6 matinales déjà, pour ce premier anniversaire, cette première année, qui est un succès grandissant. Beaucoup m'en parlent en disant « ça se passe là, les gens sont là, c'est un vrai rendez-vous de la Silver Economy ». Et pour à la fois, on n'est pas très loin de la nouvelle année, pour faire des vœux, pour que tout cela monte en puissance de manière très très forte. Vous savez, on le dit entre nous, il n'y a pas d'autres ministres dans la salle, mon ministère est le seul en croissance. Vous pouvez miser sur les silver citoyens, appelons-le ainsi. Ils sont chaque jour plus nombreux. Moi, je n'ai qu'à m'asseoir à mon bureau. Et ils ont envie d'anticiper, d'innover, de créer et d'affronter ce défi démographique qui fait que dans 10 ans, dans la France de 2025, nous serons 30%. Et que le champ d'innovation, c'est aujourd'hui nous qui allons le porter. C'est un espèce de paradoxe qui est assez merveilleux, et je vois beaucoup de jeunes dans la salle. Je suis sûre que ça vous donne une envie, une impatience d'être enfin les ressortissants de mon ministère. Bon travail, et vraiment, nous croyons tous beaucoup à tout ce que vous pouvez faire, à la fois pour nous les seniors, et pour notre pays en termes de croissance, d'innovation et de rayonnement international. Merci.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Je vais... Frédéric ?
On finit
le baromètre, effectivement.
Merci. Ensuite, on leur a posé la question, est-ce qu'ils sont prêts à payer plus cher un produit... on leur a posé la question, est-ce qu'ils connaissaient un produit pour les seniors ? Après, on leur a posé la question, donc on leur a dit, est-ce qu'ils le jugeaient âgé ou pas ? Donc, ils ont dit plutôt oui. Et après, on leur pose la question, est-ce qu'ils auraient été prêts à acheter ce même produit, mais avec un look plus jeune ? Et est-ce qu'ils seraient prêts à payer plus cher pour ce produit-là ? Généralement, ils répondent non. Donc, ils veulent un produit designé, mais pas forcément plus cher. Alors là, dans le focus, on s'aperçoit que ça dépend bien sûr des besoins. Les produits de nécessité, les produits basés sur la santé, là, ils sont prêts à payer plus cher. Les produits basés sur le plaisir ou le confort, ils ne sont pas forcément prêts à payer plus cher pour un produit qu'ils auraient adapté. À combien estimez-vous juste de payer en plus un produit conçu pour faciliter son usage par rapport à un produit équivalent ? D'accord. Donc là, vous voyez, la plupart des plus âgés disent qu'ils veulent le même prix. Là, ça dépend vraiment des besoins en fait, sur lesquels est placé le produit et également sur la nécessité. Donc, ils sont prêts à payer plus cher des produits qui permettent de continuer une activité importante pour eux. Donc, c'est surtout est-ce que c'est basé sur un besoin ? Et ils disent l'idéal est de nous proposer du confort sans que cela ne se voit par rapport à un âge. Je voulais accélérer, je voulais juste vous montrer. Je voulais finir là-dessus. Lorsque l'on a parlé dans les focus group, certains nous ont dit « Nous, on est fiers de montrer un produit qui est facile d'utilisation pour ouvrir une boîte de conserve. » C'est vachement intéressant parce que la grand-mère qui dit ça, elle dit « Voilà, je suis intéressée, je suis fier de ce produit-là », alors qu'elle dit quand même « Je suis fier d'avoir des soucis. » Et là, elle répond « Non, 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 le produit d'ouverture de boîte de conserve, par exemple, il est facile pour toutes les générations et moi, j'ai des difficultés à ouvrir les boîtes de conserve depuis très longtemps. » Donc elle ne l'associe pas à un phénomène d'âge. Et juste pour finir, dans cette matrice-là, on a essayé de résumer, vous avez sur l'axe horizontal soit une difficulté qui est liée à un âge, une difficulté, une problématique, on appelle ça un peu comme on veut, et à gauche, vous avez une difficulté qui est liée à tous les âges. Et ouvrir la boîte de conserve, c'est lié à tous les âges. Et en axe vertical, on a marqué un design adapté et un design standard. Donc ce qui est intéressant, c'est en haut en fait. En haut à droite, on voit un design adapté pour une aide auditive. Et on voit même dans ce secteur-là, même si on adapte le design, c'est pas forcément qu'on va forcément augmenter les ventes, parce qu'il l'assimile toujours à un phénomène d'âge. Par contre, à gauche, c'est là que les plus grandes ventes se font ou vont se faire. C'est un design qui est adapté pour tous, donc design for all, sur un besoin qui est identifié par toutes les générations, donc qui est non ghettoisant. Donc je voulais juste définir là, c'est un design adapté, oui, mais par rapport soit à un besoin d'âge ou soit à un besoin plutôt intergénérationnel. Voilà pour rapidement pour l'étude.
Merci Frédéric. Madame le ministre, vous connaissez notre côté Jérôme Bonaldi, hein, on s'est déjà vu avec lui. Et du coup, je vais faire une petite pirouette et demander à Mathieu Robert de nous faire une petite démonstration d'un objet qu'il est en train de mettre au point et on aimerait avoir votre retour.
Merci beaucoup. Il y a deux produits que je souhaitais présenter. C'est tout d'abord l'essoreuse à salade. Pour rester dans ce que Frédéric Serrière parlait, c'est le design pour tous. Voilà, on a ici une essoreuse à salade telle que tout le monde la connaît. Elle paraît pour tous assez simple d'utilisation. Voilà, on a juste à tourner à la manivelle et tout se passe très bien, sauf que si on réfléchit au-delà de ça et qu'on se pose les bonnes questions, on se rend compte qu'à une main, c'est pas possible. L'objet ne tient pas, que finalement, si j'ai moins de force dans la main, et ben, ça marche plus non plus. Et on se rend compte qu'en fait, il y a plein de problèmes quand on a des difficultés particulières. Et donc, la société OXO a présenté ce produit qui date de quelques années déjà, et qui a été conçu avec la notion de conception universelle. La conception universelle, c'est quoi ? C'est essayer de fabriquer des objets qui sont destinés au plus grand nombre. Et donc avec cet objet, on a juste à appuyer sur ce champignon, et il y a un mécanisme qui fait que ça tourne. J'ai plus besoin de le tenir à deux mains, la force est beaucoup plus forte qu'en tournant la manivelle, donc ils ont travaillé le confort et l'efficience du produit. Et c'est ça l'objectif du design universel. Après, l'autre produit que je présente, c'est justement un produit, on parle de design universel et de conception pour tous, mais il y a des produits qu'on n'a pas besoin tous d'utiliser. Je parle notamment du pilulier. Pilulier, cette petite boîte en plastique qui n'est pas toujours facile à ouvrir, qui au final ressemble plus à un calendrier extrudé, et au final c'est juste un contenant. C'est un contenant qui a perdu quelque part son âme. C'est un objet qui est ultra fonctionnel et qui donne pas envie d'être utilisé au quotidien. C'est pour ça que, du coup, il y a d'autres travaux qui ont été faits un peu plus poussés sur, par exemple, ce pilulier, où on voit qu'il y a une recherche d'esthétique avec deux matières, mais on reste dans une esthétique qui est très médicalisée. Donc on est dans l'univers du médical et on est dans un univers futuriste. Et je ne sais pas pourquoi, dans l'univers quotidien médicalisé, on est toujours dans cette espèce d'idéal. On est dans le futur, 2001, Odyssée de l'espace, et on a des objets comme ça. C'est dans cette réflexion que moi j'ai travaillé sur un produit. Donc effectivement, c'est un prototype et c'est de la recherche. Et il s'agit d'un pilulier. Pourquoi je prépare ce type de produit ? C'est pour se dire... l'objet ressemble plus à un pilulier, donc on décale de l'univers du médical vers un univers qui est plus proche du quotidien, qui est l'univers des arts de la table, l'univers de la décoration, et du coup on ancre la prise de médicaments dans un quotidien qui est un quotidien volontaire quelque part. Et au final, c'est un produit qui reste utilisable, facile à utiliser, j'ai pas de difficulté à ouvrir la boîte. Et quand je suis à table, je le pose comme ceci à côté de mon assiette et l'objet participe vraiment à... Il ne fait pas de tâche dans le décor de la du quotidien et de, du moment de prendre la prise de médicaments. Et donc vraiment, c'est ces deux univers que je pense qu'il est important pour le designer de travailler. La conception pour tous, quand il s'agit d'objets pour tous, et la conception pour chacun, en se disant on peut ouvrir les portes du design sur des choses plus esthétiques, sur des nouvelles gammes de produits qui sont non stigmatisantes.
Merci beaucoup Mathieu Robert. Madame la Ministre, est-ce que vous êtes prête à adopter ce nouveau panier à salade sans mauvais jeu de mots sur le panier à salade? Merci beaucoup. Alors je vous propose de reprendre le cours normal de notre matinale et je vais tout de suite donner la parole à Madame Bastard. Donc Patricia Bastard, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous dirigez une agence de design et vous allez nous expliquer comment on passe d'un design de produit à un design de service.
Bonjour, effectivement je dirige une société de design. Nous sommes une société franco-belge et je pense que notamment sur ce sujet de la silver economy, je vais vous l'expliquer, ça n'est pas anodin. Notre société existe en Belgique depuis 35 ans et la filiale donc, que j'ai lancée, que je dirige maintenant depuis 6 ans. Alors, nos métiers, nous sommes des designers produits au départ, et également transport. Nous avons lancé une activité en design de service, maintenant il y a à peu près 3 ans. Et, au revoir madame. Et nous intéressons depuis de nombreuses années à ce sujet, en fait, des seniors. Et nous avons commencé à nous y intéresser de la Belgique. On a travaillé dans divers secteurs d'activité, donc dans l'ameublement avec des PME belges, sur des fauteuils relax, sur des sanitaires. Nous avons aussi été présents, et ça c'est un point je pense assez important, dans des salons sectoriels qui n'étaient pas des salons spécialisés seniors, mais notamment un salon textile extrêmement important en Belgique, à Courtrai, où on avait présenté il y a maintenant 6-7 ans, en fait, un appartement témoin pour résidence de luxe de seniors. Et je crois qu'en Belgique, on est déjà, en plus ce sont des Flamands, on est déjà plus en Europe du Nord. Le fondateur de notre société a 65 ans et il s'est intéressé vraiment à ce marché. Alors, moi je suis très contente que maintenant en France, ça commence à un petit peu à monter l'intérêt, parce que très franchement, moi depuis 5-6 ans, j'essayais de voir ce qu'on pouvait y faire. Et c'était plutôt considéré comme un sujet pas glamour. Alors, pour répondre à votre question sur le design de service, en fait, déjà pour vous expliquer en quelques mots ce que c'est le design de service. Donc le design de service, c'est finalement de reprendre les méthodologies du design produit, qui sont analyse, création, prototypage et déploiement. Si c'est du design produit, ça va être prototypage et industrialisation, lancement du produit. Donc on reprend ces quatre phases qui sont issues du design produit et on les applique en fait à des services. Alors on les applique à des services avec cet élément assez innovant et nouveau, c'est l'intégration en fait de l'ensemble des parties prenantes dans des ateliers de co-conception. Donc concrètement, et c'est ce qu'on a fait notamment dans un projet autour du tourisme dans l'abri. On a fait des ateliers en fait de co-conception dans lesquels étaient impliqués des designers de services, des seniors qu'on avait recrutés et les gens qui étaient en fait directement concernés par le sujet, qui étaient en fait un réseau de toutes petites entreprises autour du tourisme dans l'abri. Donc ça, ça permet vraiment de faire émerger des idées, et des idées où l'usager est au centre, en fait, de la conception. Et puis la dernière, on va dire, donc caractéristique du design de service, c'est que par définition, c'est une activité qui nécessite une expertise pluridisciplinaire. Donc évidemment des designers, mais aussi, je dirais, des gens plutôt issus des sciences humaines, sociologues ou des gens qui font de l'ethnographie. Voilà.
Non. Une question, on a parlé de design, on mélange souvent le mot design avec le mot innovation. Quelle est pour vous la différence entre ces deux mots et deux concepts?
Alors, l'innovation, c'est un mot large, donc qui recouvre beaucoup de choses. Le design est au service, en fait, de l'innovation. Et je dirais que on pourrait parler d'innovation technologique d'un côté et de l'autre côté d'innovation d'usage. Et le design, c'est bien ça qu'il apporte, en fait. C'est-à-dire, je pense qu'on a, beaucoup, nous on travaille aussi beaucoup dans les transports. Une innovation, si vous voulez, qui n'est qu'une innovation technologique, on va prendre le train grande vitesse, par exemple, c'est une innovation technologique qui va plus vite. Mais si, par ailleurs, l'innovation d'usage, la partie humanisation, prise en charge des réels besoins, en fait, du voyageur, de l'expérience du voyageur, ne sont pas pris en charge, c'est une innovation qui, économiquement, ne marchera pas. Et le designer, il est là, il est bien à cet endroit-là. Donc il est complémentaire de l'ingénieur, il est complémentaire de la personne qui fait du marketing, qui est là pour elle vendre le produit. Et c'est bien cet ensemble qui peut être un facteur d'innovation. Et moi je dirais jamais assez que le designer, il faut le mettre en amont des projets. Un designer, c'est pas quelqu'un qui il le fait parfois, et nous on le fait parfois, on est appelé, un produit a été déjà pensé, et puis on nous demande de le rendre esthétique, de le customiser. Donc ça fait partie de notre métier. Mais notre métier, ou la force de notre métier, la vraie valeur ajoutée de notre métier, c'est bien d'être en amont, du projet et d'apporter en fait une véritable réflexion et créativité sur la partie usage et acceptabilité en fait du produit par le consommateur.
Merci beaucoup. Madame Vérillac, bonjour. Vous dirigez la Cité du Design à Saint-Étienne. Présentez-nous d'abord votre Cité du Design, les différents champs d'application, et dans le secteur de la santé et de la silver economy, quelles sont les opérations phares que vous menez aujourd'hui?
Bonjour à tous. Donc la Cité du Design à Saint-Étienne, en fait, regroupe plusieurs entités. C'est une école d'art et de design. C'est aussi une biennale internationale de design que l'on organise tous les deux ans, donc un très grand salon international. Et puis les activités dont je m'occupe plus particulièrement, innovation et entreprise à la Cité du Design. Donc notre rôle, si vous voulez, nous sommes un pôle d'excellence. Nous sommes là pour aider les entreprises, les designers, à rentrer en relation, à monter des projets d'innovation en utilisant justement le design. Donc pour nous, le design est un outil pour innover, et notre spécificité est d'accompagner les différents acteurs, de les valoriser, notamment sur la thématique donc santé et design pour tous. Nous avons réalisé la semaine dernière des conférences où témoignait François L'Enfant de GE Healthcare pour montrer aux entreprises, notamment aux PME, PMI du territoire, de bonnes pratiques sur cette thématique-là. Donc valoriser, accompagner, notre spécialité donc d'accompagner et d'aider à utiliser ces outils que sont le design. Donc le design va permettre notamment de réaliser, ce dont Madame parlait de Yellow Window, des ateliers de co-création. Donc nous allons aider les entreprises, notamment les PME, PMI, à utiliser ces outils. Utiliser ces outils de design en ayant toujours l'usager au centre de la démarche. C'est pour cela que nous sommes ce que l'on appelle un living lab, c'est-à-dire un lieu de vie et d'expérimentation, C'est-à-dire que tous nos projets vont se passer dans la vraie vie. Je vais vous donner un exemple qui touche notamment les seniors. Nous avons donc créé un outil, c'est-à-dire nous l'avons formalisé, ça s'appelle le LUPI. C'est un laboratoire des usages et des pratiques innovantes. Bon, c'est un cadre pour permettre aux PME-PMI d'accéder à ces outils en collaboratif. Et donc, dans la région de Saint-Étienne, où nous avons de nombreuses entreprises des technologies médicales qui vont faire des orthèses notamment, donc des ceintures lombaires, des colliers cervicaux, etc. Quatre entreprises ont travaillé en collaboratif, donc guidées par, pilotées par la Cité du Design et en travaillant en collaboration avec des professionnels designers qui s'associent à nous pour ces laboratoires et sont allées voir dans la vraie vie comment ça se passait au niveau des seniors et aussi au niveau des personnes qui accompagnaient les seniors. Parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux d'usagers. Il y a l'usager final, qui est le senior, mais il y a aussi tous les aidants, le personnel soignant. Donc en fait, on va dire notre expertise est d'aider à cette ingénierie, à savoir comment on peut avancer, qui va être l'usager, quelle méthode utiliser, et guider ainsi, parce qu'il y a beaucoup de choses de possibles, et guider ainsi en fonction du projet. L'entreprise, le designer à choisir, enfin à travailler avec le designer et à choisir la bonne méthode et toujours, toujours en étant centré sur l'usager.
Alors, on a une image du designer très créatif, on pense tous aux premières phrases de la ministre il y a quelques mois qui disait qu'il fallait qu'un déambulateur soit designé par Philippe Stark pour que les gens le souhaitent. Est-ce que c'est dans ce côté image ou bling bling qu'on recherche aujourd'hui des nouveaux modes de vente et d'acceptation, ou est-ce que vous repartez vraiment, enfin, c'est une question qui donne la réponse, mais où est-ce que vous repartez des usages et de l'utilité qu'on peut avoir à revisiter un produit?
Donc non, nous repartons vraiment des usages. C'est vrai que parfois utiliser un nom comme Philippe Stark peut aider à la communication et à la valorisation, c'est certain. Mais la plupart des designers qui travaillent dans les groupes que l'on monte ne sont pas connus du grand public. C'est leur métier. Ils travaillent en équipe avec les entreprises ou ils sont intégrés dans une entreprise. Donc voilà. Et bien sûr, l'important est avant tout l'usage et l'usager.
Quelle est la formation d'un designer en général?
Alors, il y a des écoles de design, donc il y en a une à Saint-Étienne, mais bien sûr, il y en a une aussi très reconnue, et plusieurs même reconnues à Paris. Donc, en général, les designers ont une formation Bac plus 5 qui leur donne un diplôme de designer. Pour donner l'exemple à Saint-Étienne, nous formons à la fois en art et en design, les deux étant complémentaires.
D'accord, très bien. Mathieu Robert, une question. Donc vous travaillez pour des sociétés, vous avez décidé de vous saisir vous-même de ce questionnement autour du pilulier. Est-ce qu'il est plus facile de revisiter un produit pour le rendre plus design, ou est-ce qu'il est plus facile et plus pertinent de le concevoir d'emblée dans cette démarche de design?
Alors, il y a les deux opportunités qui se présentent à chaque fois à nous en tant que designer. Clairement, comme vous disiez tout à l'heure, on peut avoir une demande de recarrosser un objet qui a déjà été construit et c'est en le redessinant à ce moment-là qu'on se rend compte on pourrait pas modifier ça et on se rend compte que l'objet aurait pu être mieux si on s'était vu tous ensemble, si on avait il y a le designer, mais il y a aussi plein d'autres intervenants qui doivent travailler ensemble avec des ingénieurs. Et clairement, le designer, il est là pour accompagner l'innovation et pas pour créer tout seul dans son coin. Quand je fais ce genre de produit, c'est pour moi. Clairement, c'est un objet qui n'est pas vendable dans l'état. C'est de la recherche. Et aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, on peut faire de la recherche en termes de forme, en termes de matière. Tout ce qui est en céramique a été imprimé en imprimante 3D. Et donc, ça permet de donner un prototype d'aspect, et c'est là-dessus que je voulais appuyer la forme. Donc, vraiment, on était là dans recherche d'esthétique, mais changement de forme et changement de la vision du produit par rapport à l'existant comme celui-ci. Donc, il y a vraiment les deux possibilités, mais c'est sûr que si on reprend toute la base et qu'on a le temps d'aller visiter les personnes qui utilisent ces produits pendant 2-3 semaines et vraiment les suivre au quotidien. Il n'y a pas longtemps, du coup, à la conférence à Saint-Étienne, il y avait Charlotte Delaumier qui a fait une présentation et qui a justement fait une intervention où elle allait visiter les personnes âgées et leur demander ces objets, pourquoi vous les utilisez, pourquoi vous les utilisez pas. Et elle dit, les personnes ont commencé à répondre, ça on l'utilise pas parce que c'est un objet froid. Et du coup, c'était une question que j'ai trouvée très intéressante sur qu'est-ce que c'est qu'un objet froid, qu'est-ce qu'un objet chaleureux, et du coup, comment on va l'utiliser, comment on va plus facilement utiliser un objet dont on se sent proche, dont on a une attache quelque part qui est plus chaleureux. Et je trouvais que cette réflexion était très intéressante, et du coup, dans la démarche du produit, il faut aller aussi dans cette direction.
Merci beaucoup. Monsieur Lenfant, bonjour. Vous êtes donc designer chez GE. Vous avez, GE Healthcare a donc fait le choix d'intégrer un département design.
Oui, je m'occupe effectivement du design chez GE Healthcare. Le choix, c'est vrai qu'on peut se questionner sur le choix d'une grosse entreprise américaine d'intégrer une fonction design. Et je pense que c'est d'abord, ça fait un certain temps déjà que le design est intégré, mais surtout c'est né d'une réflexion qui consistait à finalement comprendre que derrière la technologie, il y avait quelque chose d'autre. Derrière l'objet, il y avait un sujet. Et je pense que c'était une réflexion importante. Qui constate que le succès d'une solution technologique va au-delà de la technologie. L'intégration de l'élément humain, puisque c'est de ça dont il s'agit dans les métiers qui sont les nôtres au design chez GE Healthcare, c'est vraiment de recentrer, de remettre le focus sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'usage et la meilleure acceptation de nos solutions.
Est-ce que c'est un investissement? Est-ce que vous avez une idée du coût dans la démarche de création d'un produit ou dans la démarche de valorisation d'un produit, d'une démarche telle que celle autour du design? Est-ce que ça fait partie des critères que l'entreprise mesure, par exemple? Est-ce que ça apporte derrière?
C'est une question intéressante parce qu'on parle souvent du coût du design, on parle rarement de son apport, qui est la création de valeur, qui est... Alors, on se pose évidemment la question du coût du design, et quand on regarde les indicateurs qu'on commence à mettre en place, ils sont très variés, mais ils sont tous très éloquents. C'est-à-dire qu'un produit où on a fait appel à du design, un produit auquel le design n'a pas participé, on est capable de regarder s'il y a une différence dans le prix de revient final du produit, par exemple. Et on sait très bien que dans plein de cas, le design est capable non seulement de ne pas ajouter de coût au produit final, mais de réduire ce coût, puisque le designer a une fonction extrêmement synthétique qui permet également de repenser, d'intégrer les choses d'une manière différente. Donc de ce point de vue-là, on peut dire en interne, on constate que le design est capable de performance. Maintenant, on peut aussi juger l'apport du design sur des métriques très simples qui sont les parts de marché. Est-ce qu'on est capable, au travers de design, quand le design a été partie prenante et d'une manière extrêmement importante dans le développement du produit, est-ce qu'on est capable d'observer un apport sur cet élément-là? Un autre indicateur, c'est également le prix de vente. Le prix de vente des produits, le prix de vente moyen, c'est une notion assez fluctuante, et la perception de la qualité influence, et la perception du produit lui-même influence énormément sur la perception du coût du produit. Donc vous voyez, il y a finalement un panel assez large qui permet d'évaluer le coût du design. Mais j'ajouterais simplement qu'au-delà des indicateurs économiques, il y a également et progressivement d'autres raisons d'intégrer le design dans l'entreprise, qui sont par exemple les avancées que le design permet dans la réorganisation de l'entreprise. Le mode de pensée ou les outils du design, les outils de l'innovation finalement, puisque le design est souvent associé et souvent travaille d'une manière intégrée avec ces problématiques d'innovation dans l'entreprise. Et bien les outils du design permettent dans bien des cas de repenser au-delà des produits, des services, au-delà des services, des organisations. Et on se rend compte de plus en plus que, en tout cas nous, chez GL Scare, l'entreprise fait appel à nous pour également repenser certains modèles d'organisation à l'engineering et au marketing.
G intervient sur l'ensemble des âges. Est-ce que vous avez une démarche spécifique pour les seniors ou les plus 55 ans? Et vous avez à la fois des gammes B2B, on connaît vos scanners, vos IRM. Est-ce que cette démarche est autant appliquée pour justement des dispositifs médicaux qui sont à usage professionnel que pour vos outils plus grand public?
L'intégration des problématiques seniors, pour nous, c'est quelque chose de totalement transparent. En fait, ce qui est important pour nous, c'est de nous adresser à une population la plus large, parce que chacun d'entre nous, on est un jour potentiellement un patient, et que finalement, au lieu d'être exclusif, on essaye d'être inclusif et d'intégrer finalement tous les âges dans l'échelle de valeur qu'est la nôtre. En fait, ce qui est important, c'est pour nous moins de résoudre des problématiques de seniors ou dites seniors que d'essayer de comprendre quels sont les différents niveaux de capacité des gens. Quand on aborde l'univers médical et quand on va passer un examen, on peut avoir des capacités différentes. Tout le monde sait que finalement, nous tous, quand on nous considère dans notre globalité, on est une population très faite de variétés, je dirais, puisque les genres différents aboutissent à des problématiques différentes. On a également de grandes variations en ce qui concerne nos tailles, nos poids, nos habitudes droitier-gaucher, etc. Et puis on a également une grande variabilité dans nos comportements. Donc finalement, pour nous, la problématique, elle n'est pas senior versus junior. Encore que parfois, il y a des liens extrêmement forts entre les capacités réduites des seniors et celles réduites des nouveau-nés, par exemple. Donc on peut très bien faire des liens entre tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à 97-98% de la population, des gens qui vont utiliser nos systèmes.
Et sur la partie professionnelle, outils professionnels ou objets grand public, est-ce qu'il y a une démarche différente au sein de votre entreprise?
Dans les métiers du médical, on n'a pas vraiment de produits grand public. En revanche, on a des produits qui sont B2B2C. Donc à la fin, on touche le grand public. C'est vrai qu'on vise avant tout des clientèles professionnelles. Mais finalement, on touche également le grand public, puisque sur un appareil médical, vous avez toujours deux personnes. L'une d'entre elles, c'est le grand public. Donc en fait, la difficulté de nos systèmes, c'est justement de pouvoir intégrer des problématiques qui sont à la fois des problématiques d'efficacité, d'un côté, c'est l'efficacité du médecin, ou en tout cas du praticien, et de l'autre côté, les attentes extrêmement légitimes du grand public, du patient, pour qui ce moment est un moment véritablement émotionnel.
J'ai une question qui me vient et que je pose à tous. Chacun sera libre de poser sa question. On oppose ou pas design for all, accessibilité for all et segmentation pour les seniors. Quelle est votre perception? Est-ce qu'il faut une démarche spécifique ou pas? Ou est-ce qu'en passant par la démarche du design for all, on arrive de toute façon à trouver la bonne ergonomie du produit, le bon usage du produit? On sent qu'on oscille entre les deux là, à la fois dans les besoins que tu exprimais, Frédéric, et dans vos façons de travailler.
En tout cas, en ce qui me concerne, nous on vise le design for all parce que du point de vue industriel, on crée des plateformes communes et que ces plateformes, on a besoin qu'elles puissent s'adapter à une population la plus large possible. Donc ça, c'est une réalité. Et encore une fois, les problèmes sont moins des problèmes de choix, esthétique, design, etc., que de résoudre des problèmes de capacité. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir des solutions qui sont beaucoup plus flexibles, qui puissent se permettre... Vous savez, dans certains cas, un équipement en échographie aux États-Unis va être utilisé par une personne plutôt grande debout à gauche du patient, et puis finalement au Japon on va trouver un usage différent où une personne sera probablement plus petite et assise à droite du patient. Ce qui veut dire que nos systèmes, dans un certain sens, doivent absolument s'adapter à des différences anthropométriques extrêmement marquées.
Bah, volontiers. Du coup, c'est ce que je posais avec les deux objets que j'ai présentés. L'essoreuse à salade qui est destinée vraiment à tout le monde parce que tout le monde en a une chez soi. Et le pilulier qui, si on n'a pas de médicaments à prendre, on ne va pas acheter un pilulier. Et je pense que la problématique est la même pour le déambulateur sur un objet qui n'est pas le même quand on fait de la rééducation à 30 ans et que rapidement on va vouloir réapprendre à marcher le plus vite possible et s'en sortir. Et une personne âgée qui, au final, le déambulateur, c'est un objet du quotidien qui va l'accompagner au quotidien et va vivre avec. Donc, je suis pas sûr que les deux objets soient obligatoirement les mêmes. Et puis après, on peut pouvoir différencier comme les goûts, les couleurs, avoir quelque chose de un peu plus sportswear pour les plus jeunes ou même les plus âgés qui ont toujours été dynamiques et quelque chose de plus déco, pour des personnes qui sont plus attachées à la décoration.
Oui, je pense qu'il faut dissocier clairement le design pour tous. Je pense que c'est un objectif global qui doit être pris en compte, notamment, moi je vois beaucoup dans les transports, dans les espaces qui sont, ou les produits qui sont utilisés de façon commune par tous. Voilà. Donc ça, le design pour tous n'est pas quelque chose de spécifique pour moi du tout à la silver economy ou aux seniors. C'est un objectif qu'on doit se donner et qu'on se donne d'ailleurs, on essaie de se le donner pour toutes les à la fois les espaces encore une fois et les produits destinés au plus grand nombre. Par contre, je pense qu'il faut bien penser que pour ce marché et ce potentiel marché de la silver economy, il faut le considérer non pas comme uniquement une amélioration de produits et de services qui existent, mais bien d'essayer d'innover et d'inventer et de trouver des nouvelles façons de faire, des nouveaux produits ou de nouveaux espaces. Et là, je pense que, on n'est plus du tout dans le design for all. Et je pense que si on ne considère pas ce marché de cette façon-là, on va se priver de vivier d'innovation et de vivier, en fait, de développement économique. Et pour moi, l'ambition, elle est bien là, quoi. Il s'agit, vous m'avez posé la question de la différence entre le design et l'innovation. Pour moi, il s'agit d'innover dans ce secteur d'activité si on veut que la France soit pionnière, si on veut que la France se distingue des autres. Après, on peut améliorer les produits qui existent, il n'y a pas de souci, mais on doit le faire de toute façon. Le design pour tous, pour moi, devrait exister de fait partout, quoi.
Merci. Un petit mot, Madame Verillac, et après on vous présentera la société Technosens.
D'accord. Donc à la Cité du Design, nous sommes en fait des militants de la démarche Design for All, puisque nous sommes membres d'une fondation qui existe à Barcelone et nous représentons cette fondation en France diffuser cette démarche Design pour tous. La ville de Saint-Étienne elle-même a joué le jeu en rentrant dans un réseau des villes Design pour tous. Elle a été la première ville française à rentrer dans ce réseau et aujourd'hui il y a encore des progrès à faire, mais c'est vrai qu'au niveau notamment des transports, de l'accessibilité, mais pas que l'accessibilité. Lorsqu'on parle de design pour tous, c'est bien pas uniquement pour les personnes handicapées, c'est vraiment aussi pour tous, pour toutes les cultures, pour toutes les sociétés. société, pour toutes les personnes. Et enfin, souvent on dit design pour tous et design pour chacun, parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'à la sortie fabriquer des produits qui soient plats et uniformes. En ayant cette démarche-là, c'est bien partir des spécificités alors des personnes très âgées ou des personnes handicapées, mais pour fabriquer des produits et services qui soient pour tous, pour les jeunes. Et j'espère vraiment que les produits et services qui vont naître de la silver economy seront bien aussi des produits pour les jeunes et pas stigmatiser personnes âgées.
Merci beaucoup. Monsieur Chevalier, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment, dans votre société Technosens, que je vais vous donner le temps de nous présenter, vous avez mis en place cette démarche design? Comment aujourd'hui vous ressentez, vous avez ressenti ce besoin et comment c'est apprécié par les utilisateurs?
Bonjour. Donc, j'ai fondé la société Technosens en 2007. On est parti d'un laboratoire d'usage, donc on est parti des usages, avec l'optique de dire on va garantir le plaisir d'usage. Et où je reviendrai sur une notion, sur le principe de design pour tous, où pour nous la simplicité est une notion personnelle. Et donc on a développé une solution qui s'appelle Ilio, avec une Ilio Box, l'optique étant de proposer par l'intermédiaire de la télévision différents services à notre personne au domicile, des services en lien avec sa famille, des services en lien avec les professionnels. Et donc en travaillant beaucoup sur cette simplicité, donc la démarche initiale, on a réuni des utilisateurs, des professionnels et puis beaucoup de logs, c'est-à-dire de gérontologues, de sociologues, de neurologues, pour arriver à échanger autour et avec un designer, pour arriver à faire évoluer, je dirais, justement l'approche de design. On est arrivé à une solution où on a voulu travailler, donc d'avoir un outil d'un design le plus simple possible, on parlait, je vais recouper un peu les points qu'on a pu aborder. On parlait de coûts, pour une expérience très terrain. Nous, on a commencé de travailler avec un designer qui nous a, donc avec des échanges, avec donc toutes ces sciences humaines. Et puis, au moment après, donc avec des tests utilisateurs, où on était plutôt satisfait du design, donc avec des prototypages aussi, etc. On s'est dit, on va le fabriquer. Alors là, on s'est aperçu que c'était bien designé, mais infabriquable. Donc il a fallu passer par un mécanicien pour arriver à voir que les pièces, pour qu'on puisse les fabriquer, il fallait qu'elles soient distinctes, parce que sinon ça coûtait trop cher à fabriquer, parce qu'il fallait peindre, etc. Donc il a fallu réinvestir. Au moment ensuite de fabriquer vraiment, donc c'est-à-dire il faut concevoir des moules pour couler le plastique, là on s'est aperçu que ça se démoulait pas, donc il a fallu qu'une autre intervention. C'est un processus qui demande un certain temps. Ça est probablement il y a eu ces itérations parce que en tant que créateur de société, je découvrais aussi tout ça. Mais donc c'est un processus qui est intéressant, qui est nécessaire, mais qui demande une expertise et un certain investissement.
Alors en deux mots, à quoi sert Ilio et comment vous... Je crois qu'il est à la fois pour les personnes âgées chez elles et à la fois pour les établissements.
Exactement. Donc dans un premier temps, nous on a ciblé pour dans la stratégie d'avoir une forte courbe d'expérience sur ce qu'est la personne âgée, on a ciblé dans un premier temps les maisons de retraite. Donc aujourd'hui on a 600 lits installés. Donc la solution est derrière la télé dans la chambre et permet à notre personne de rester en lien avec sa famille sur une notion de photo, de visiophonie, de téléphonie. On vient remplacer en fait les différents équipements de la chambre par un seul outil puisque cette télécommande fait à la fois téléphone. Et puis ça permet de se coupler au système d'appel malade pour que le professionnel fasse de l'interphonie. Ça permet à notre établissement de communiquer avec la famille pour décloisonner l'établissement, oui, parce que les photos qui sont, ou les menus ou les activités qui sont partagées aujourd'hui principalement sur un tableau d'affichage dans l'établissement, mais on peut les partager dans les chambres, on peut les partager avec les familles chez elles. On va pouvoir avoir d'autres animations, que ce soit dans la salle d'animation ou que ce soit en chambre avec des jeux. Voilà, en fait, on est venu, je dirais, mettre du numérique dans la chambre de manière simple pour offrir d'autres services en lien avec la sécurité et le confort.
Et chez le patient ? Enfin, chez la personne âgée, pardon.
Alors, chez la personne âgée, aujourd'hui, on est sur des premières démarches en lien, là aussi, avec la sécurité, donc c'est-à-dire le pilotage de la domotique, tout avec un seul outil, par l'intermédiaire de l'écran de la télévision, toujours, que ce soit la téléassistance, que ce soit là aussi des jeux, que ce soit être en lien avec ce qu'on appelle la télésanté, télémédecine, donc en lien avec les professionnels de santé, en pouvant coupler des périphériques de santé aussi pour avoir des données. Voilà, c'est un outil qu'on a voulu, assez polyvalent, en tout cas avec l'optique de dire on va pouvoir avoir un outil, la télévision, et pouvoir piloter différents périphériques de manière ouverte et évolutive.
Donc c'est de l'intégration de services. On peut dire qu'il y a une espèce de design de service autour de ça, puisque vous intégrez de plus en plus de services utiles à la personne âgée à travers un seul outil de gestion en fait au quotidien.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Où donc on a eu un design sur cet outil et beaucoup de design donc justement logiciel, ouais. Interface. Et là justement dans la notion de tout à l'heure dont je vous parlais où pour nous la simplicité est une notion personnelle parce que plus on avance dans l'âge, plus on va avoir une perte d'autonomie ou des habitudes qui nous sont propres. Et l'outil ne doit pas réagir pareil si j'ai du mal à prendre ma télécommande en main ou si j'ai du mal à entendre ou si j'ai du mal à lire. Et par conséquent, comme pour avoir un modèle économique, on ne peut pas réinventer l'outil sans cesse, on a un brevet européen sur une technologie qui s'appelle la technologie ergo-tuitive, qui est en fait l'adaptabilité de l'interface, des interfaces, en fonction d'un profil où le professionnel vient répondre à 6 questions qui caractérise la capacité de la personne à voir, entendre, parler, la capacité de ses membres supérieurs et inférieurs. Et de ça, il y a un profil qui est téléchargé dans cette box pour que l'outil vienne s'adapter à l'autonomie de cet utilisateur, toujours dans le souci de garantir le plaisir d'usage.
J'ai de nouveau une question pour tous avant de pouvoir vous donner la parole avec la salle. On parle beaucoup de labels pour l'autonomie, on parle de la mise en place d'un label. Quelle est leur relation entre le design et les critères d'une labellisation qui aujourd'hui n'existe pas encore en tant que telle en France sur la silver economy, mais qui est dans l'air du temps? Alors, ça vous inspire?
Pour moi, quand j'entends labellisation, j'entends... caractérisation pour définir cet outil répond à tel besoin. J'entends garantir à un utilisateur que cet outil répond bien à ce besoin, que cet outil est bien à ce niveau de qualité. Parce que on entend un peu tout et rien dans ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Pour moi, c'est plus une notion qui sera utile à notre utilisateur pour faire son choix.
D'accord, un critère de choix pour l'utilisateur.
Oui.
Question difficile. Je pense que la notion de label peut aider à promouvoir la silver economy, à faire reconnaître les produits, les services qui seront développés. Que pour l'usager, c'est effectivement une valeur sûre, un moyen de confiance et de qualité. Qu'il faut faire attention justement lorsqu'on parle de cette notion de design pour tous à ne pas connoter ce label personne âgée, mais bien mettre ce que l'on bien faire passer le message de ce qu'est la silver economy pour que ce soit un label que l'on ait envie d'acheter,
qu'il ne stigmatise pas.
Voilà.
Monsieur l'enfant, une réaction?
On travaille déjà sur des choses assez proches, en tout cas dans le médical, pour répondre à ce qu'on appelle usability engineering process. L'idée derrière ça, c'est d'être capable de garantir un usage pour le plus grand nombre. Donc un label pour nous, c'est quelque chose qui peut, dans certains cas, pour certaines entreprises, je pense, favoriser les moyens à mettre en œuvre pour aboutir à ce résultat. Mais dans le médical, on a une sorte d'obligation de résultat déjà dans ce domaine.
Madame Bastard ou Monsieur Robert, une
Moi, je suis plutôt d'accord avec Isabelle Verillac sur le fait que ça peut promouvoir et c'est intéressant, mais il faut faire attention à pas que le label Design pour tous soit stigmatisant sur des produits de grande consommation.
Oui, enfin, je partage aussi votre opinion. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que le design pour tous, c'est vraiment une démarche, je dirais, globale, sociétale. Et la silver economy, c'est quand même aussi une recherche d'innovation et de leviers spécifiques, quoi.
Il y a en fait un label qui s'appelle Edge OK, en fait, qui a été mis en place. Et les résultats sont pas forcément très bons parce qu'en fait il y a un problème d'âge en fait. On agit. Moi j'avais une question aussi concrètement. Est-ce qu'on a des exemples d'entreprises qui, depuis qu'elles ont mis en place une démarche de design pour tous, ont vu leur chiffre d'affaires progresser? Est-ce qu'il y a des exemples concrètement d'entreprises qui ont vu, bon, on a mis en place, ça a progressé ou le produit s'est plus vendu? Est-ce qu'on arrive à mesurer ça? Est-ce qu'il y a des exemples concrets?
C'est-à-dire que le design pour tous, c'est... Alors, moi, je n'ai pas d'exemple dans le domaine des produits. Par contre, j'ai plus d'exemples dans le domaine des services. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gros opérateurs de transport, hein, que ce soit la RATP ou Keolis, qui fait partie du groupe SNCF, donc ce sont les gens qui gèrent finalement la majorité de nos réseaux de transport en France. Ils font en tout cas des études en permanence de satisfaction et ils tendent vers cette notion de design pour tous. Donc je pense que c'est extrêmement important dans le niveau de satisfaction. Hein. Donc ça fait partie d'un ensemble avec la ponctualité, enfin voilà, qui fait que ça va favoriser l'usage des transports publics plutôt que l'usage de la voiture.
Oui, je peux vous donner quelques exemples, puisque avec la fondation dont je parlais tout à l'heure, la fondation a créé un prix Design for All avec différentes catégories, des catégories plus pour le public, des catégories entreprises. Donc sur leur site internet, on peut trouver des exemples de produits. Et je voudrais en citer un que nous avons eu le plaisir d'accueillir à Saint-Étienne il n'y a pas très longtemps, de l'entreprise espagnole qui s'appelle Leque. Qui est un peu le pendant de notre entreprise Rhône-Alpine Seb, qui fait des ustensiles donc de cuisine en silicone. Et ils ont vraiment mis en place une démarche Design for All en travaillant avec la fondation. Ils vont faire donc des ateliers de co-création avec les usagers, aussi bien dans les maisons de retraite, dans les écoles. Donc ils ont une démarche très active et une démarche aussi qui de design management pour l'entreprise qui utilise vraiment le design dans sa stratégie. Et aujourd'hui, leur chiffre d'affaires augmente de manière conséquente. Et d'ailleurs, on les trouve de plus en plus dans nos magasins français.
Alors, je vous propose de passer à notre série de questions-réponses. Est-ce que, voilà, s'il y en a une gentille hôtesse qui veut bien vous donner le micro, monsieur, je vous demande de vous présenter d'abord.
Ça marche. Oui, Richard, vous savez, je suis consultant auprès de la Chambre des commerces et d'industrie de l'Artois. Nous représentons ici le cluster senior Nord-Pas-de-Calais, qui est juste de l'autre côté. Et donc, nous sommes la Silver Economy dans le Nord-Pas-de-Calais. Je voulais simplement indiquer que un de nos principaux donneurs d'ordre à l'avenir va être le groupe Maison et Cité. Le groupe Maison et Cité, c'est l'ensemble du patrimoine habitat minier du Nord-Pas-de-Calais. Et qui concerne, je voudrais redonner ici quelques chiffres, soit 30% de la population hébergée par le groupe Maison et Cité a plus de 70 ans. Cela représente, le groupe Maison et Cité, c'est 70 000 logements sur tout le Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes, ça va être le principal donneur d'ordre d'expérimentation pour la Silver Economy. Ce qui nous intéresse, c'est que nous allons réaménager un nombre très important d'anciens logements miniers pour permettre à ces personnes âgées de conditions très modestes. Hein, quand j'entends parler du design pour tous, nous sommes ici, nous ne sommes pas sur des CSP+, hein, bien entendu. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire des objets que nous pouvions mettre à la disposition de ces gens, selon un système de location, d'économie de la fonctionnalité de produits marchands, des objets qui soient les objets adaptés à ces personnes, que ce soit, puisque nous allons nous consacrer également au mobilier, donc aux objets effectivement de tous les jours et au mobilier, pour une population très largement vieillissante, essentiellement composée, on va le dire, de veuves d'anciens mineurs. Voilà. Donc est-ce que vous pensez que les uns et les autres, vous pourrez nous aider à aller dans cette démarche?
Oui, je pense que votre exemple est intéressant parce qu'il parle d'un segment. Il est concret, il parle d'un segment dont on n'a pas trop parlé, parce qu'on parle toujours effectivement des CSS+, donc cette population vieillissante qui a un gros pouvoir économique. Vous touchez un autre sujet qui, à mon avis, est celui de l'innovation sociale. Nous sommes très engagés dans des projets avec la DGCS, des projets expérimentaux justement d'innovation sociale, et qui touchent entre autres des sujets de ce type, c'est-à-dire des sujets pour les populations vieillissantes dans le Limousin, sur des sujets de mobilité. Donc je pense que y a non seulement possibilité de vous aider, mais je pense que c'est des sujets qui sont aujourd'hui au cœur de certaines démarches de certains ministères, et pas simplement le ministère de l'économie, mais aussi voilà les ministères des affaires sociales, quoi.
Ça rejoint une question, effectivement. Comment on trouve des produits designés pour les silver, pour la silver economy? Est-ce qu'il y a un portail? Est-ce qu'il y a, pour aider monsieur aujourd'hui, il va où pour savoir comment orienter sa réflexion? Comment trouver les produits? Comment être sûr que c'est les bons? À commencer par des choses très simples, oui, comme l'ameublement.
Ben, moi, je pense qu'il faut. Je pense que les produits n'existent pas ou ils sont très disparates. Donc, je pense que dans un cadre comme ça, qui est un cadre un peu expérimental, ça vaut la peine de faire appel à des designers pour créer, des lignes spécifiques. Et comme la quantité risque d'être assez importante, les industriels seront forcément intéressés derrière pour suivre. Mais je pense que la démarche doit plutôt être initiée de la part de la région plutôt que voilà, il n'y a pas de portail. Enfin, en tout cas, moi, je ne pense pas qu'il y en ait. Hein.
En fait, il faut aller voir le stand Silver Valley. Ils ont un des membres de la Silver Valley qui fait de l'ameublement adaptable, en fait, adapté et adaptable. Et tout ce qui est technologie, donc c'est juste l'autre stand en face, c'est Medialis qui eux ont bien référencé, sont pour moi les leaders en France du référencement des plutôt technologie.
Et il y en a un autre, puisque c'est effectivement en croissance, qui s'appelle Ecolab, et qui est en train de référencer des produits, de les mettre en 3D avec des simulateurs de placement dans les pièces, et qui le fait sur toutes sortes de produits. Donc c'est vrai que je pense que ça va émerger de plus en plus. Monsieur Charenton.
Nous, on a pu en rencontrer deux, pour citer deux noms. Et il y a une société qui s'appelle Perspective Design et il y a une société qui s'appelle Geria Contract, qui sont à la fois sur le meuble et sur le design ou l'agencement justement des bâtiments.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question?
Bonjour. Bonjour, j'avais juste une question pour François Lenfant. Vous évoquiez tout à l'heure que le design avait même eu comme capacité de changer le mode d'organisation au sein de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer pourquoi ou comment? Merci.
Oui, en fait, on s'est rendu compte chez GIC qu'on pouvait réfléchir les organisations ou les repenser d'une manière différente. Par exemple, le marketing chez nous est un marketing extrêmement technologique. Ce sont des gens qui sont issus de la technologie parce que nos produits sont hautement technologiques. C'est pas un marketing grand public non plus. Donc on a besoin de comprendre, et le marketing a passé beaucoup de temps à comprendre les besoins de nos clients en les interrogeant, ce qu'on appelle voice of customer. Donc on passait énormément de temps à comprendre en interrogeant nos clients ce dont ils avaient besoin. ils se sont rendus compte que le design, grâce à des outils d'observation, de comportement, était capable de découvrir des attentes non exprimées des utilisateurs et des clients. Et en utilisant le design et les outils d'observation du design et d'analyse, le marketing essaye progressivement de les importer dans l'organisation marketing pour avoir une meilleure connaissance, je dirais, intime des attentes non exprimées, cachées de nos utilisateurs, de nos patients et des hôpitaux. Donc ça, c'est un premier exemple. L'engineering également, chez nous, s'intéresse à sa réorganisation au travers de sessions d'innovation que le design organise et qui permet aux gens des organisations, dans l'entreprise, de réfléchir autrement sur leurs valeurs et sur leur rôle dans l'organisation. Donc c'est un petit peu une manière pour nous de mettre un petit peu, de changer les points de vue et de faire bouger un petit peu des lignes. Donc les ingénieurs réfléchissent avec des designers sur leur propre métier d'ingénieur. Et en ça, ça permet non pas de totalement changer l'entreprise, mais de réfléchir sur un moyen d'intégrer l'innovation et de repenser son mode de fonctionnement. Donc effectivement, on le fait à plusieurs niveaux et ça plaît au point qu'aujourd'hui, on réfléchit chez GE à des modules de formation qui permettent de développer les décideurs de l'organisation en les confrontant à des modes de réflexion plus orientés vers le design. Donc on travaille et on est très intéressé à ça parce que c'est une manière pour nous de diffuser la culture du design dans l'entreprise et de gagner des promoteurs de notre fonction, mais également de participer à la transformation de l'entreprise.
Et alors, dans une société internationale comme GE, on positionne l'innovation en France, où il y a vous avez des homologues dans chaque pays pour réussir à faire des produits internationalisables, comme vous l'expliquiez.
Oui, d'abord, bien sûr. D'abord, on est une organisation globale. On a mon manager est aux États-Unis, donc on a un studio de design aux États-Unis, mais on en a également deux en Chine, un au Japon, un en Inde. C'est extrêmement important d'arriver à comprendre même si on définit des plateformes de produits qui sont très globales, c'est important de comprendre les spécificités de chaque pays ou de chaque région. Donc on a besoin de faire des observations dans plusieurs régions du monde, donc ça c'est extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle on est une organisation extrêmement globale.
Oui, bonjour, Ludovic Aignon. Je voulais simplement rebondir sur l'absence aujourd'hui de portail concernant l'accès, parce que tout est à créer aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et, il faut savoir qu'il y a eu cette année la création de l'association de l'AFUD, l'association française de l'Universal Design, qui propose aussi d'accompagner les entreprises avec l'aide de consultants ou designers spécialisés pour favoriser l'émergence de produits UD. Il y a des blogs qui existent aussi, donc Mathieu Robert, ici présent, a son propre blog qui a pour but de promouvoir des innovations dans le domaine du design médical. Il y a Cathy Karoff qui a créé depuis un an un blog qui s'appelle Conception Universelle. C'est un blog sur lequel vous allez avoir beaucoup d'articles sur des innovations produits pour l'aménagement du domicile, de la cuisine, et qui traite de différentes actions, de bonnes initiatives et pratiques. Et pour ma part, excusez-moi du coup de pub, mais je viens de mettre en ligne mon blog cette semaine qui s'appelle Universal Design et qui a justement pour but de favoriser ces échanges entre les designers, les ergonomes, les ergothérapeutes, les entreprises, mais aussi les associations représentant les usagers pour favoriser l'émergence de nouveaux produits. Voilà.
Profite du micro qui était juste à côté. J'ai une petite question pour Monsieur Chevalier qui rejoint aussi ce qu'on a dit sur le manque de portail et donc de visibilité. Comment aujourd'hui commercialisez-vous votre solution, que ce soit en institut ou en grand public?
C'est la question, oui. Non, mais c'est aussi un des choix de pourquoi, dans un premier temps, on s'adresse aux établissements de santé et d'accueil, parce que c'est un marché beaucoup mieux structuré, qui reste néanmoins compliqué, puisque le marché des maisons de retraite et des résidences-services est un marché atomisé. Atomisé voulant dire qu'aujourd'hui, les grands groupes Korian, Domusvi, c'est 8% du marché. Après, la plupart des mairies détiennent via leur CCAS ou en direct un établissement, enfin, etc. Donc c'est un marché atomisé, on y accède par une prescription directe et par un réseau d'agents commerciaux et ou intégrateurs. Ensuite, pour ce qui est du domicile, je dirais que j'ai eu quelques expériences, pour l'instant peu concluantes, liées à un manque probablement aujourd'hui d'un vrai réseau ou d'un vrai canal, lié aussi à une jeunesse de notre solution à l'origine. Je dirais que la difficulté pour le domicile est comment j'atteins avec mon produit un niveau où j'ai le marketing, j'ai le produit, les services, l'organisation autour, pour ensuite pouvoir le déployer. C'est la première phase. Je dirais que pour le déploiement derrière, on a finalement pas mal de possibilités sur un déploiement large, que ce soit pour en citer un opérateur téléphonique ou autre, des choses, mais voilà, c'est cette phase-là. Donc nous, on construit cette phase-là en s'appuyant sur les établissements de santé et d'accueil, et l'approche domicile viendra un peu plus tard pour nous.
Moi, j'avais une question. Est-ce que les designers sont formés à la notion de coût dans ce qu'ils produisent? Parce qu'il y a une phase sur le marché des seniors en 2006-2007 où il y a pas mal d'entreprises qui ont développé des produits pour les seniors, mais qui étaient dans une partie qui était trop chère, peut-être bien designés, mais beaucoup trop chère pour les seniors. Est-ce que les designers intègrent en amont cette notion de coût, ou est-ce qu'ils se lâchent? Et après, on dira, bon, après, on verra si ça rentre, si c'est fabricable, et puis à quel prix. Est-ce qu'ils intègrent la notion de coût au début, ou est-ce qu'ils sont...
Tout à l'heure, j'ai un petit peu tiqué sur votre remarque. Vous avez dit, oui, on avait un bon design, mais après, on avait des problèmes de fabrication. Bon, alors, je pense que, si je puis me permettre, c'est pas un bon design. Donc, un designer, normalement, intègre des notions de coût. Un intègre des notions de fabrication et par définition intègre aussi des notions de coût. Alors, il n'est pas à même, si vous voulez, de maîtriser le coût final, mais par contre, il sait très bien que s'il fait X pièces plutôt que X moins 5 pièces, ça va coûter plus cher. Donc, il a ces notions d'optimisation, en fait, du coût, et évidemment d'optimisation également de la fabrication, puisque c'est étroitement lié, quoi.
Je vous crois. Je dirais que, voilà, il me semble, et que ça n'enlève rien à la qualité du designer, il me semble que finalement c'est aussi le rôle de l'entreprise que d'être au milieu et que de savoir challenger et que de savoir interagir avec les différentes compétences, parce que finalement c'est aussi que la fabrication d'un produit implique différentes compétences, que pour rebondir sur mon expérience, qui n'est pas une généralité, mais voilà, quand on a un design, il y a de l'électronique à l'intérieur, donc qui impose, est-ce que c'est l'électronique, est-ce que c'est le design? Moi, je me suis battu pour que ce soit le design. Donc après, ça veut dire qu'il faut rechallenger l'électronique. Donc ça implique finalement beaucoup de compétences pour arriver à tenir compte du prix. Et je pense que ça, c'est le rôle de l'entreprise, de l'entrepreneur, que d'avoir ce souci à l'origine et que de pouvoir insuffler cette demande et la partager avec les différents interlocuteurs.
Je crois que c'est vraiment le problème du management du projet.
Peut-être en complément et en théorie dans les écoles de design, la formation de designer doit inclure tout ce qui concerne l'humain, donc nous y sommes, c'est le sujet du jour, l'usager, et aussi tout ce qui est développement durable, dont la partie conception, cycle de vie du produit fait partie. Donc même s'il n'est pas spécialiste, il doit intégrer dans son projet, après ça dépend des professeurs, des écoles, des étudiants, etc. Mais dans une formation de designer, ça doit être intégré, pris en compte.
une question. Est-ce qu'il y a des pays qui sont connus ou reconnus pour leur démarche design avec des exemplaires? J'ai en tête IKEA, en fait, qui doit son succès à une approche à la fois du design et de l'accessibilité en termes de prix de son mobilier. On parle aussi du Japon qui est assez en avance sur ses stratégies design. Est-ce qu'il y a des zones géographiques, des success stories internationales liées à ces démarches-là?
Du coup, c'était à Saint-Étienne que ils ont parlé du coup de la Norvège, je crois, qui a décidé d'ici 2025 d'avoir la totalité du pays accessible à tous, donc avec la notion de design pour tous, voilà. Et c'est un objectif précis qui est d'ici 2025 une entière accessibilité au plus grand nombre.
Et je crois que vous avez cité le Japon. Le Japon est clairement en avance sur le sujet, à la fois pour le traitement de ces espaces publics et sur les produits. Bon, le sujet est crucial pour eux. Hein, donc,
oui. Mais non, pour rebondir, c'est vrai que le Norwegian Design Council est très en avance sur ces points-là. Et ils ont déjà édité plusieurs fascicules, ils travaillent à plein temps sur ces sujets, pour eux c'est extrêmement important et on voit vraiment à quel point en général les pays nordiques sont en pointe. Maintenant, pour rebondir sur le Japon, le Japon à bien des égards concernant notre réflexion sur les seniors est important, puisque à l'horizon 2030, 45% de la population japonaise sera senior, et donc on est un petit peu derrière, mais malgré tout on regarde énormément, en tout cas chez nous, le Japon comme étant précurseur de la résolution de beaucoup de problèmes et de beaucoup de réflexions sur concernant les seniors.
Donc Frédéric, au lieu de faire une matinale, on fera un voyage exploratoire au Japon l'année prochaine, non?
On
vous proposera. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question? Est-ce qu'il y en a une? Oui, tout au fond.
Bonjour, Corinne Delogère, cabinet DCI. J'accompagne des collectivités par rapport à ce problème de l'accessibilité vis-à-vis des seniors. Et je m'aperçois que quand on parle de design produit et de design service, vous avez beaucoup parlé, aujourd'hui on voit l'OMS en termes de la charte de villes amies des aînés. Aujourd'hui en France, il n'y en a que 10 villes. Donc quand on parle en termes de design, parce que moi je trouve qu'avec la Silver Economy, on focalise beaucoup un peu sur les produits, sur les services. Et d'un autre côté, on doit voir beaucoup plus global. Le côté vivre ensemble, c'est pas seulement en termes de produits, c'est en termes aussi de transport et en termes de même intergénération. Et j'ai un petit peu peur, mais c'est juste, j'en fais une réflexion, je dirais, pour l'ensemble un petit peu des personnes, parce que vous l'avez tout à fait bien dit, en 2006-2008, on a vu beaucoup de sociétés se monter avec des produits, avec des services, et elles n'existent plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elles ont stigmatisé par rapport à une cible de seniors. Alors d'abord, qualifions le senior en termes d'âge, donc c'est très très diversifié. Mais j'allais dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas regarder, puisqu'on est sur une matinale spéciale sur le design, le design en termes de incorporer presque le plus en amont possible. Je suis très étonnée de voir de la part des promoteurs immobiliers, je ne parle pas des promoteurs spécialisés dans les résidences-services au niveau senior ou estudiantine. Hein. Je suis très très étonnée que les promoteurs immobiliers n'ont pas une réflexion, un petit peu, bon évidemment le groupe CAD là à ce niveau-là, mais ils sont encore très très en retrait en se disant, on va, entre guillemets, je le fais très court, on va attendre que la loi, entre guillemets, nous impose. C'est vrai qu'on a les problèmes d'accessibilité avec les handicapés, ça nous prend la tête. Et au lieu finalement de raisonner global en se disant, on raisonne en termes de seniors ou en termes d'handicapés, pourquoi pas, on a le problème des logements des jeunes et avoir une réflexion beaucoup plus globale. Donc je suis un petit peu étonnée. La silver economy, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit seulement que la partie technologie. Il faut que ce soit vraiment une réflexion beaucoup plus globale. Et madame le disait du cabinet Yellow, c'est vrai qu'à un moment donné, l'intégration, je dirais, pas seulement de gérontologues, mais de sociologues, d'ethnologues, du côté vivre ensemble et au niveau avec le côté aussi les études. Voilà. Donc je m'arrête là, parce que ce n'est pas seulement une question, c'était plutôt une réflexion.
Je veux bien répondre à votre réflexion sur un cas très précis, parce que nous avons mené une étude de design de service qui était en partie financée par la DGSIS dans le cadre d'un appel à projet.
et où on a choisi de répondre sur un projet de design de service. C'était la PCI, donc l'association de la promotion du design industriel, qui était porteur du projet. Nous, nous étions là en tant que designer de service et le sujet, c'était les seniors et le tourisme en Brie. Donc la Brie étant cette région un peu avant Marne-la-Vallée. Et les destinataires du projet, c'était un réseau de 70 TPE impliqués dans l'univers du tourisme. Donc des gens qui avaient des chambres d'hôtes, des jardins qui visitaient, des producteurs de produits alimentaires. Et on a fait vraiment une démarche hyper intéressante de design de service où on a impliqué les usagers. Donc on a fait des ateliers de co-conception avec des seniors, avec donc ces acteurs-là. Et il en est sorti des concepts très intéressants justement sur le mieux vivre ensemble, des concepts intergénérationnels, des concepts de partage justement possible en fait entre les gens qui hébergeaient et puis les gens qui par exemple produisaient ou avaient un verger, dans une idée de villégiature, de revenir. L'idée était vraiment de faire revenir ces seniors sur cette... Donc il en est sorti des choses très intéressantes, mais la grosse difficulté, ensuite, c'est la mise en œuvre par ces acteurs. Et là, on se confronte à une difficulté qui est que faire bouger les lignes en termes de concept, c'est finalement pas si difficile que ça si jamais on se donne les moyens, vraiment on arrive à vraiment des choses innovantes, des choses intéressantes. Après, la mise en œuvre de ces concepts a été extrêmement difficile et principalement, à mon avis, à cause du porteur de ces toutes TPE, qui était l'Office du tourisme de la Brie, qui finalement avait une vision très traditionnelle de ce que ça pouvait être le tourisme. Donc il revenait toujours avec son obsession, il faut un produit packagé, comme si le fait de diffuser un produit packagé senior allait faire que tous les seniors de Paris allaient se ruer vers la Brie. Voilà. Donc et on a eu beaucoup de mal à lui faire comprendre qu'il fallait vraiment, là pour leur innover, changer les lignes, etc. Donc c'est un travail, moi auquel je crois beaucoup, mais il est un peu de longue haleine. Hein.
Juste, nous concrètement, on travaille avec Gérard Collomb sur la ville de Lyon, donc justement pour Ville des Aînés. Il y a un livre blanc qui est accessible sur Internet où on a travaillé avec ICAD. Et puis vous pourrez aussi regarder la société GDP Vendôme avec son concept Villa Sully. Voilà, donc il y a des choses très concrètes justement pour tenir compte de cette adaptabilité, mais comme vous le dites très bien, au sens très large. Voilà, et nous, pour un peu rebondir, tout à l'heure on parlait de label, et je sais que nous on a une réflexion, et l'idée du label pour nous c'est quelque chose qui pourrait s'appeler juste simple.
Merci à tous, écoutez, merci de votre assiduité à ces rendez-vous. C'est donc la dernière de l'année, Frédéric, on se dit peut-être à 2014.
Bien sûr, 2014.
2014, on viendra vers vous, effectivement, en janvier. Et écoutez, n'hésitez pas à rester, vous avez la salle pour faire un peu de networking, comme on dit, et poser vos questions. Merci beaucoup, à bientôt.